Merci beaucoup Nicolas Drouet pour votre introduction, présentation très honorante. Je souhaite aussi remercier chaleureusement évidemment Guy Chedeau pour son invitation renouvelée après donc effectivement ma venue à Genève Annemasse il y a quelques années. C'est frustrant de ne pas pouvoir se retrouver en chair et en os. Évidemment, mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord et c'est vrai que l'avantage de l'inconvénient, c'est que nous sommes très nombreux et des quatre coins du monde. Enfin, donc, il y a une ressource sans doute à faire valoir enfin, dans cette situation très frustrante enfin, de distanciation nécessaire. Bon, je me réjouis beaucoup de cette occasion. Et de cette occasion de rencontre et de discussion et d'échange aussi lors de la table ronde qui va suivre dans l'après-midi. Alors le thème que m'a proposé Guy, je dois dire, parce qu'en fait c'est à son initiative, m'a un tout petit peu déconcerté au début, dans la mesure où finalement je me suis dit, mais au fond, en quoi suis-je qualifiée pour parler de méditation vipassana, même à travers l'approche phénoménologique. Donc c'est évidemment depuis cet éclairage que j'en parlerai. Donc ça m'a fait vraiment voilà, revisiter un certain nombre de choses et d'étapes de mon propre parcours. Et puis bon, finalement, voilà, je me suis réinscrite dans ce cadre en me disant bah, il y a vraiment un sens à essayer d'avancer sur ce plan également. Donc je vais essayer de vous proposer quelques pistes. Ce seront essentiellement des pistes. C'est pas du tout un exposé construit. C'est loin d'être le cas, dans la mesure où ça demanderait, c'est carrément le titre d'un ouvrage, en fait, hein, ce que tu m'as demandé, Guy. Là, vraiment, c'est voilà, une esquisse pour ouvrir des questions et engager la discussion, d'autant plus que tu as déjà, comme tu le fais très bien, resitué. La journée dans le cadre de la phénoménologie, donc c'est parfait. Hein, il y a déjà des jalons qui sont là, mis en place, qui vont permettre de prendre appui dessus. Donc évidemment, parler de phénoménologie vipassana, c'est s'inscrire dans un cadre plus large qui engage le bouddhisme de façon plus large, plus générale. Et aussi la phénoménologie dans un sens en fait assez large. Il me semble que ce contexte plus large il doit être d'emblée un peu resserré pour donner un peu plus de sens à cette relation. Je vois deux conditions en fait qui permettent vraiment d'entrer de plein pied enfin, dans cette mise en relation entre phénoménologie et vipassana. D'une part, c'est de penser la phénoménologie moins comme une philosophie qui construit des théories. Et qui produit des catégories, même si c'est aussi une philosophie, bien sûr, et qui fait de ce fait ce travail également critique, mais de la penser moins de ce point de vue-là, dans cette perspective en tout cas, et plutôt comme une attitude. Donc Guy a parlé justement d'un changement d'attitude, enfin, c'est au cœur de la phénoménologie et de la pratique même de la suspension qui est en jeu dans l'hypoké, j'y reviendrai. Donc de la penser comme une attitude. Comme une pratique, c'est un thème qui m'est cher en fait, de vraiment réformer la phénoménologie comme une pratique. Et peut-être aussi même plus avant, je dirais en référence par exemple au travail de Pierre Hadot, de la pensée comme une manière de vivre, c'est le titre d'un de ses livres, donc sur un mode avec une dimension existentielle, expérientielle forte. Donc il me semble que c'est important déjà de se situer de ce point de vue-là, donc de se positionner dans cette conception de la phénoménologie pour pouvoir entrer dans la question. D'un autre côté, il me semble qu'il y a aussi une conversion à faire, ou en tout cas un changement de perspective à adopter, ou en tout cas un accent à porter concernant le bouddhisme lui-même, et de l'envisager dans cette relation donc, qui est en jeu ici, non pas seulement comme une religion, qui serait caractérisé, qui est caractérisé par un certain nombre de règles de vie et de pratiques de dévotion. C'est le cas évidemment dans les monastères bouddhistes. Donc de l'envisager moins comme cela que comme une expérience méditative accessible à toutes et à tous. Donc il ne s'agit pas de jouer l'un contre l'autre, de même que pour la phénoménologie, il ne s'agit pas de jouer la théorie en faveur de, par rapport à la pratique. Il ne s'agit pas du tout d'avoir une vision alternative ni exclusive, mais plutôt de porter un accent qui permet d'offrir le terrain à partir duquel justement ces deux approches peuvent être mises en relation. Si on n'est pas dans ce genre d'accent, eh bien en fait, on va tout de suite entrer dans des oppositions, dans des conflits doctrinaux ou autres. Et en fait, donc c'est très, finalement, c'est peu fécond pour essayer justement de faire ressortir les liens et la productivité et la fécondité finalement de cette mise en relation. Je vais, en guise d'introduction, commencer par donner quelques éléments concernant la phénoménologie, puis quelques éléments concernant cette pratique méditative vipassana spécifique. Et puis ensuite, je vous indiquerai un peu les différents moments de mon propos. Donc, concernant la phénoménologie, de façon encore très générale, au moment de préparer cette journée, Guy m'a demandé si je pensais proposer une pratique. Là aussi, ça m'a un peu déconcertée. J'étais un peu perplexe en me disant, mais de quelle pratique pourrais-je parler? Et je lui ai répondu assez spontanément qu'il n'était pas question pour moi d'entrer dans cette. Enfin, en tout cas, je n'avais pas du tout le sentiment d'être compétente pour guider une pratique. Alors, je pensais évidemment, dans le cadre dans lequel qui est le nôtre, à une pratique méditative. Je ne me sens absolument pas qualifiée pour faire ce genre de guidage. Après coup, j'ai pensé que ça pouvait aussi avoir un autre sens, la question de Guy. Ça pouvait être aussi finalement une pratique qui serait plutôt de l'ordre de la microphénoménologie, donc a évoqué Nicolas. Mais ça aurait pris trop de temps et je pense que c'était. Voilà, ça nous aurait demandé vraiment un temps à part entière. Donc je ne le ferai pas, même si à la fin, j'évoquerai peut-être une sorte d'invitation en ce sens. En tout état de cause, il me semble que l'intérêt de la phénoménologie, eh bien, c'est justement d'être dans une position, on pourrait dire, de ni-ni, hein, c'est tout à fait en résonance dans notre journée consacrée aussi à la relation avec le bouddhisme, donc neti-neti, hein. Donc c'est ni une pratique guidée, la phénoménologie, ça ne peut pas être conçu comme une pratique guidée au sens d'une pratique méditative, ni non plus un discours de surplomb. Comme le dit Michel Merleau-Ponty, donc qui critique justement cette vision de surplomb ou cette façon de voir les choses de l'extérieur. Donc l'intérêt de la phénoménologie, c'est qu'elle finalement, elle joue un rôle peut-être de passerelle ou en tout cas de charnière, d'entre-deux. Elle a une fonction donc qui lui permet justement d'épouser de façon assez à fleur d'expérience, de façon un peu immanente. D'épouser justement une pratique sans se substituer à un guidage qui serait, voilà, qui aurait des ressources très particulières dans la mise en relation avec l'expérience et qui ne caractérise pas la phénoménologie par ailleurs, mais d'avoir quand même de jouer le rôle finalement d'un discours situé à fleur d'expérience, de par sa visée descriptive que tu évoquais aussi, Guy, et en même temps. Comment dire, de tenir dans un discours qui est doté d'un certain nombre de ressources, comment dire, de concepts qui sont précis et qui permettent d'éviter d'avoir un discours trop généraliste sur l'expérience, donc de rentrer dans des descriptions vraiment précises qui permettent de cerner de près, en fait, des vécus extrêmement singuliers, ciblés, et donc de nous faire vraiment entrer dans notre expérience. Mais par justement la précision aussi de ce qui est nommé. Donc il y a une sorte de double dimension qui me semble caractériser la phénoménologie et qui lui donne cette spécificité qui la qualifie sans doute de manière assez intéressante, justement pour répondre à la description d'une pratique, sans se substituer ni à la pratique elle-même, et sans non plus donc être située sur un plan trop général ou trop. Ou trop conceptuel justement, qui serait décollé de l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, la phénoménologie, elle est aussi déposée dans des textes. Hein, donc, il ne s'agit pas du tout de minorer cette dimension-là. Hein, les ressources textuelles, elles sont fortes, elles sont fécondes. Et donc, je vais évidemment aussi me permettre de vous lire quelques passages, parfois un peu longs, du philosophe qui est quand même celui qui me caractérise le plus dans ma formation, à savoir Edmund Husserl. Donc ce sera plus Husserl que Merleau-Ponty ou Michel Henry, désolé Guy, mais voilà, j'y trouve aussi une des ressources de précision et de définition et d'approche du vécu singulier qui sont très satisfaisantes pour moi, donc c'est la raison de ce choix. Et puis je serai aussi amenée dans le cours de cette présentation à vous montrer comment il me semble important aujourd'hui de renouveler l'approche même de la phénoménologie historique déposée dans des textes, de la renouveler à travers donc, cette approche assez récente qu'on appelle maintenant microphénoménologie, qui en fait date d'un travail du psychologue Pierre Vermersch. Je donne juste ces quelques jalons au départ, donc un psychologue français formé à l'école de Jean Piaget initialement, donc... Il nous ramène à la Suisse ici, et qui a développé donc une technique d'entretien d'explicitation, qu'il a nommée entretien d'explicitation, qui consiste en fait à décrire une expérience vécue, ciblée, singulière. Donc ici, on est vraiment dans l'unicité dont on parlait Guy aussi. Une expérience donc hic et nunc, et de revenir donc à cette expérience à travers donc ce que cette expérience véhicule toujours pour nous au départ de pré-réfléchi, c'est un terme qui est repris par Pierre Vermersch, pré-réfléchi, c'est-à-dire c'est là, c'est disponible, mais en fait on n'avait pas véritablement les moyens d'y accéder de plus près. Donc cette dimension pré-réfléchie, eh bien elle est disponible et elle demande à ce qu'on y accède, donc d'où cette dimension d'explicitation qui va nous fournir un grain de description beaucoup plus fin encore que ce qu'on peut lire dans un certain nombre d'analyses textuelles déposées dans les ouvrages des grands phénoménologues. Donc je viendrai à ce changement de niveau, hein, d'expérience, un peu plus tard, d'ailleurs plutôt vers la fin en fait de ma présentation. Concernant la méditation vipassana, donc on a affaire, et là je suis évidemment beaucoup moins qualifiée pour en parler de très près, mais on a affaire à une pratique méditative qui doit être spécifiée, hein, qui doit être distinguée, même si on parle souvent de méditation samatha ou shamatha, vipassana, donc on allie les deux, hein, c'est vrai qu'en même temps il s'agit d'une pratique spécifique, je vais y revenir, et qui est aussi distincte d'une pratique plus avancée qui est souvent reliée à des pratiques dites Dzogchen ou qui mettent en jeu donc la vacuité, sur lesquelles je ne reviendrai pas plus en détail. Je vous donnerai juste une référence à ce propos. Donc on a différents moments ou différentes pratiques, différents types d'avancement, on va dire, dans la méditation. Et une première option, c'est assez connu, mais c'est utile de le rappeler, c'est de relier finalement ces différentes pratiques aux voies, aux trois voies du bouddhisme. Je m'inscrirai surtout dans le cadre tibétain, que je connais un peu de l'intérieur. Et on va donc du coup relier ces différentes pratiques aux trois yanas, ce qu'on appelle les yanas ou les voies. Savoir le Hinayana, donc aussi nommé le petit véhicule, donc qui est une voie plus individuelle et plus monastique, le Mahayana, donc qui est aussi nommé le grand véhicule, et donc aussi nommé la voie de la compassion ou de la relation à autrui, et enfin le Vajrayana, donc on nomme aussi la voie du diamant, et ici plus caractéristique du bouddhisme tibétain, qui est d'une certaine manière une voie de l'absence de voix, on pourrait dire, donc une voie où les formes finalement perdent de leur détermination et laissent ouvert finalement un espace indéterminé. Voilà, je vais juste dire cela, c'est relativement insuffisant, mais ça permet de caractériser ces différents chemins. Alors on peut relier ces pratiques à ces différents chemins, et c'est tout à fait juste, bien sûr. Mais on peut aussi considérer que c'est un peu restrictif, car évidemment, transposer ces pratiques dans ces différents chemins C'est aussi les inscrire culturellement, historiquement. Évidemment, ça permet de situer le propos, de situer la pratique, donc c'est tout à fait utile. Ça permet de l'insérer dans une histoire, dans une culture. Mais on peut aussi considérer que c'est un peu enfermant, donc c'est un peu à double tranchant, dans la mesure où ça peut finalement avoir un effet un peu endogène par rapport à des pratiques qu'on peut aussi situer de façon beaucoup plus universelle et les transposer finalement dans d'autres contextes culturels et historiques. Et c'est bien ce dont témoigne justement la venue du bouddhisme en Occident, aux États-Unis tout d'abord dans les années 60, et puis ensuite en Europe, en France. Donc il y a tout un travail de transmission et de désenclavage aussi par rapport à une culture dans laquelle, évidemment, des cultures dans laquelle le bouddhisme est né. Donc là, il ne s'agit pas de se débarrasser des ancrages, mais simplement de les transposer, de montrer en fait l'intérêt de la. De cette dynamique, enfin, et du coup de la possibilité même de se greffer à des pratiques sans forcément soi-même être né dans ces pays ou être soi-même d'ailleurs bouddhiste d'un point de vue religieux. Donc il me semble que voilà, il y a une petite restriction par rapport à cette transposition trop complète entre ces pratiques et les trois voies en question. Deuxième réserve, il me semble que ces trois voies, enfin je ne suis pas la seule à dire cela, en fait ces trois voies et ces trois pratiques en l'occurrence ne sont pas successives, ne sont pas linéaires, comme si on avait affaire à un processus cumulatif. On partirait d'un point et on arriverait à un autre point, on partirait d'une pratique de méditation de base Samatha et on arriverait à des pratiques plus avancées de type Dzogchen. Il y a bien sûr des phases et des étapes, et des moments qui servent de repères. Ou par exemple, lors d'un temps de pratique, après un moment de brouillage, de désorientation, où on ne sait plus très bien finalement où on en est, eh bien, à un moment donné, on peut se dire, ah tiens, je sais que je suis passé par là déjà. Je me rends compte, il y a une prise de conscience, micro-prise de conscience, ah mais j'étais déjà passé par là. J'ai déjà vécu ça, j'ai déjà ce repère, j'avais oublié et en fait, il est disponible. Donc évidemment, il y a des étapes et il y a un avancement. Mais pour autant, on se rend compte aussi que ces différentes pratiques, eh bien, elles circulent l'une dans l'autre, elles empiètent l'une sur l'autre, et donc elles ne répondent pas, comme on le sait pour l'apprentissage de façon plus générale, à un processus qui serait linéaire. Donc il y a des paliers, il peut y avoir aussi des régressions, bien entendu. En tout cas, pour ma part, une des choses que j'ai pu retenir de l'enseignement, c'est ce qu'évoquait Nicolas tout à l'heure, l'enseignement que j'ai reçu de façon immédiate de Shugyam Trungpa, donc ce moine tibétain qui est parti aux États-Unis donc après l'invasion du Tibet par la Chine, donc à la fin des années 50, et qui a fondé donc le centre dans les montagnes rocheuses aux États-Unis, donc Rocky Mountain Dharma Center, où il a donné beaucoup d'enseignements par exemple, hein, c'est juste un exemple, sur les 9 étapes de Samatha, donc cette méditation assise de base, et sur ses passages et allers-retours avec Vipassana. Donc lui-même insiste beaucoup sur cette circulation entre ces deux pratiques, entre une pratique plus de base, je vais y revenir, et une pratique un peu plus ouverte et avancée. Alors moi-même, évidemment, je n'ai pas suivi ces enseignements, j'étais pas encore née à ce moment-là, mais j'ai eu la chance d'en recevoir des éléments de transmission par celui qui fut un de ses disciples, Francisco Varela, donc qui est un scientifique, un neurobiologiste chilien qui a donc été initié par Shugam Trungpa donc à la méditation et qui à son tour donc dans les années fin des années 90 notamment, m'a introduit au bouddhisme et à cette méditation notamment. Il a d'ailleurs aussi été, je crois, l'enseignant de Fabrice Midal qu'on évoquait. Et donc j'ai eu aussi la chance de bénéficier de beaucoup de transcripts des enseignements de Shugam Trungpa par son intermédiaire. Donc ces deux raisons, donc d'une part historique et culturelle, et d'autre part concernant cette structure, cette dynamique circulaire, me semble-t-il, de ces trois méditations, chemin ou yana, comme on voudra. En fait, je vais adopter une approche qui sera justement plus délibérément centré sur les pratiques expérientielles, et donc moins historique, culturel ou linéaire. Donc Vipassana est connu pour être une pratique plus avancée que Samatha, et d'une certaine manière, c'est vrai que cette pratique suppose en partie la méditation de base, mais elle est aussi étroitement articulée avec cette pratique de base. Et c'est la raison pour laquelle, comme je disais, on parle souvent, Trungpa parle souvent de méditation Samatha Vipassana. Il n'est pas le seul à dire cela. Donc là, dans cette présentation, je vais procéder en quelques moments, trois moments, en fait, de façon assez standard. Tout d'abord, premièrement, je vais vous proposer donc une première approche qui sera encore assez générale, d'une part, donc de ces différentes pratiques. Donc Samatha Vipassana et Vajrayana ou Dzogchen Sunyata, comme on voudra, donc, qui questionnent le rapport à la forme même de la méditation, on verra pourquoi. Et d'autre part, donc une présentation encore assez générale aussi de la phénoménologie dans sa version essentiellement husserlienne, à travers les différentes formes de réduction. Donc le terme de réduction, c'est le terme qu'utilise Husserl pour définir la méthode même de son approche. Qui se caractérise aussi en voix, c'est intéressant de le noter, hein, en allemand c'est le terme Wege, Weg, Wege, donc des voies, des yanas, des chemins, comme on voudra, donc des voies, trois voies principales, intéressant, et qui correspondent aussi à des actes, hein, donc on a quelque chose d'intéressant d'un point de vue structurel, puisqu'on a de part et d'autre des voies, des chemins, trois. Et on a parallèlement, de part et d'autre, des pratiques qui sont caractérisées par Husserl plutôt comme des actes, dans un premier temps, mais on verra qu'en réalité, ça s'amplifie, c'est plus large qu'un acte à mesure qu'on avance dans ces différents types de voies. Donc les trois actes en question qu'on peut trouver chez Husserl, et je vais le faire de façon très pédagogique et très ciblée pour le propos d'aujourd'hui. Les trois actes en question, c'est d'une part la conversion du regard, ce que Husserl appelle la conversion du regard, en allemand Umkehrung des Blickes, c'est exactement c'est une traduction tout à fait littérale, conversion du regard, le retournement, le moment de retournement du regard, qui est lié à ce que effectivement Guy nommait l'intentionnalité, je vais y revenir. Un deuxième type d'acte, qu'on peut décrire comme une ouverture du champ de la conscience. Et enfin, un troisième type d'acte. Donc vous voyez, c'est un acte un peu moins spécifique. Hein. Quand on parle d'ouverture du champ de la conscience, on est moins dans un acte au sens précis du terme, mais on est plus dans une dimension d'expansion. Et enfin, un troisième type d'acte, j'y viens en fait en dernier, j'expliquerai pourquoi, qui est l'épopée, donc qu'évoquait aussi Guy, ou suspension des préconceptions. Et j'expliquerai pourquoi je distingue en fait ces deux premiers actes de l'épopée. Ça, ce sera un premier moment. Ensuite, un deuxième temps consistera à vous présenter un modèle, un petit modèle que j'ai eu la chance de pouvoir construire avec Francisco Varela et Pierre Vermersch dans un travail que nous avons mené sur 5 ou 6 ans entre la fin des années 90 et le début des années 2000, dans un ouvrage donc, qui s'intitule en anglais On Becoming Aware et en français À l'épreuve de l'expérience, et qui tente justement de ressaisir de façon plus unifiée ces deux approches, donc, que sont la phénoménologie d'une part, le bouddhisme de l'autre, à travers ses pratiques et ses gestes et ses voies. Alors, pas seulement le bouddhisme, en fait, hein, dans l'ouvrage, c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup d'autres pratiques qui sont mentionnées, mais là, je m'en tiendrai à ce format, puisque c'est le nôtre aujourd'hui. Et donc, ce petit modèle, il tient, j'essaierai de le ressaisir rapidement et synthétiquement, il tient en ce que nous avons appelé trois gestes attentionnels principaux, qui circulent ensemble. Donc, en fait, le choix de parler de gestes plutôt que d'actes ou de pratiques, eh bien, c'était justement une façon d'essayer de renommer, de rebaptiser de façon unifiée ces deux approches. Donc, le choix conceptuel est toujours intéressant parce qu'il permet à travers la renomination ou le baptême, d'identifier finalement quelque chose qui va à la fois intégrer les approches et en même temps leur donner un sens nouveau. Et enfin, dans un dernier temps, j'essaierai de redistribuer un peu les cartes pour montrer comment la pratique vipassana d'un côté, le chemin phénoménologique qui lui correspond de l'autre, restent distincts, mais peuvent s'enrichir l'un l'autre selon une autre façon de les relier, donc une autre manière, une autre méthode, qui est celle des contraintes génératives mutuelles. Donc il y a un terme qui a été forgé dans tout ce travail que nous avons mené avec Francisco Varela et Pierre Vermache, pour à la fois faire ressortir la spécificité de chaque approche et en même temps montrer comment elles bénéficient l'une de l'autre, elles se fécondent l'une l'autre. Donc on est peut-être dans quelque chose qu'on appellerait de manière plus large et un peu plus globale, quelque chose qui relève d'une forme de non-dualité, c'est-à-dire on ne parle pas d'unité. Le modèle que je présenterai dans un deuxième temps, il a cette visée unifiante, mais on connaît aussi les risques d'une forme de monisme ou de holisme quand il est trop accentué. Et donc il est important de garder la spécificité, et garder la spécificité, c'est aussi marquer justement remarquer les territoires. Donc premier temps, première approche, et donc d'abord premier versant, donc le versant donc du bouddhisme et de ces trois pratiques principales que j'évoquais tout à l'heure. Donc je vais être relativement synthétique et succincte dans ce temps-là. Donc avec Samatha ou Shamatha, donc cette méditation de base, eh bien on a le propos principal, en fait c'est un propos, la pratique principale, l'expérience principale que l'on fait, c'est une expérience où l'on va être en mesure d'observer les pensées qui me traversent. J'observe ce qui me traverse, ce qu'on appelle le flux de mes pensées. Ces pensées, à un moment donné, se manifestent à moi, se cristallisent, je les identifie et je les laisse aller. Donc il y a un va-et-vient où je vais être plus ou moins consciente finalement de ce qui se passe en moi. Et à certains moments, je vais être à même de me rendre compte, d'identifier, donc d'être capable de nommer même ce qui est en train de se passer. Donc penser ici, ça peut évidemment être à la fois des états mentaux, mais ça peut être aussi des émotions. Le terme penser étant très large, étant pas du tout focalisé sur la dimension seulement cognitive. Donc ça peut être un souvenir, ça peut être la pensée de quelqu'un que je vais voir, ça peut être un affect, etc. Donc, ce flux, ce va-et-vient, eh bien, il se déroule dans la pratique elle-même sur la base d'un repère, d'un support, qui est donc le rythme de la respiration. Et donc c'est grâce à ce support, c'est une aide en fait, c'est un soutien, c'est grâce à ce support que je vais, dans le rythme même de l'inspire et de l'expire, me laisser porter par les pensées qui émergent et qui disparaissent. Bon, je ne vais pas détailler ce point qui est peut-être connu et sans doute connu, très connu de certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais bon, ça permet vraiment de partir de l'ancrage de base en fait, dans la relation à soi. Et ça crée ça permet de créer, d'instaurer une première forme de relation à soi, qui est évidemment évanescente, qui est fragile, qui va et vient au rythme même de ma capacité ou de ma possibilité à laisser émerger ces pensées, à les ressaisir. Donc évidemment, c'est quelque chose qui demande un exercice et qui, dans un premier temps, peut sembler très, très pauvre et très peu satisfaisante, mais qui, à mesure qu'on s'exerce, fait de plus en plus émerger justement cette relation à soi-même. La méditation vipassana, c'est donc une méditation qui, de fait, prend appui sur cette première pratique. Dès lors qu'elle est un peu établie, qu'elle est un peu stabilisée, qu'elle a été un peu exercée, qu'elle a une forme d'opérativité, on pourrait dire, en soi. Elle se donne comme projet, cette méditation vipassana, de mettre en jeu un type d'attention qui va avoir un statut plus ouvert, qui va avoir, parfois, il s'est nommé, cette attention est nommée panoramique. Panoramique, c'est un peu large, hein, parce que c'est évidemment comme si tout était ouvert, ce qui est loin d'être le cas. Mais en tout cas, c'est une méditation plus ample et qui est moins centrée ou moins axée strictement sur la respiration et sur les allers-retours des pensées qui va et viennent au rythme de ma respiration, et qui est plus attentive, au fond, à l'espace lui-même, autour de moi. Alors, dès qu'on dit cela, c'est vrai que c'est très gênant, parce qu'en fait, on fait comme si l'espace, c'était quelque chose qui est autour de moi, qui m'entoure, qui est un réceptacle dans lequel je serai. Et d'une certaine manière, ça, c'est une vision encore assez abstraite et, je dirais, assez catégorielle, qui oppose finalement ce que je suis moi et puis ce qu'il y a autour de moi. Alors qu'en réalité, l'objectif de cette méditation, de la méditation Vipassana, eh bien, c'est de me faire prendre conscience à mesure que je ne suis pas dans l'espace, mais je suis l'espace même. Que finalement, la vision qui s'ouvre à moi, eh bien, j'en suis. Donc, d'une certaine façon aussi, la volumétrie de l'espace, les saillances, le relief de l'espace, je suis moi-même ce relief, je suis moi-même une de ces saillances. Donc, c'est en ce sens qu'on va parler de vision, parfois on parle de vision pénétrante ou profonde, ce qui est un terme utile, mais qui reste un peu général ou abstrait. Si on n'a pas en tête ce qui est en jeu finalement dans ce devenir espace du je, du moi, dans la mesure où c'est la condition pour que, si on prend conscience de ce devenir espace du moi, eh bien on prend aussi conscience à mesure d'un effacement qui reste graduel et qui est évidemment toujours fragile également, mais un effacement d'un certain nombre de limites ou de barrières qui existe entre moi et l'espace autour de moi. Donc on a évidemment toujours en tête ces deux termes qui reviennent, le moi et l'espace autour de moi. C'est difficile de s'en débarrasser, finalement on est quand même construit dans nos catégories comme cela, et c'est aussi une distinction utile à un certain niveau. Mais la portée de la méditation Vipassana, telle que je la comprends en tout cas, eh bien, c'est à mesure de me faire prendre conscience d'une forme de porosité des limites entre ce que je suis et ce qu'est l'espace autour de moi. Je garde cette formule autour de moi, même si, évidemment, à chaque fois, il faut la reformuler comme étant quelque chose dont je suis. L'espace, c'est aussi j'en suis. J'aime assez cette formule, j'en suis. C'est inclusif. Et ça permet d'éviter justement de raisonner en termes trop distinctifs. En tout cas, à mesure qu'on entre dans la méditation Vipassana, eh ben on fait pas forcément sauter ces barrières ou ces limites entre moi et ce qui m'entoure, mais en tout cas, on les rend un peu plus poreuses, un peu moins rigides, et on crée davantage d'aller-retour entre les deux. Alors, ce qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est que cet espace autour de moi, cet espace que je suis aussi, eh bien, il inclut la relation à autrui, comme n'étant pas moi. Il l'inclut d'ailleurs de façon première, en réalité, même si je ne l'ai pas nommé au tout début. Et en fait, depuis la perspective samatha, méditation samatha, autrui va être perçu comme n'étant pas moi, de même que l'espace est perçu comme étant autour de moi. Alors que depuis Vipassana, donc si on change de perspective, moi et autrui, eh bien, ce sont des réalités qui vont émerger ensemble, parce qu'elles sont toutes les deux, nous sommes tous deux situés dans un espace qui est le même, qui est commun, pas forcément exactement le même, mais en tout cas qui est commun, qui est partagé, et qui existe pour nous deux. Donc vous voyez, en fait, la position d'autrui ici est cruciale, parce qu'elle permet vraiment de comprendre bien le mouvement de bascule qui se passe entre samatha et vipassana. Je vais y revenir à la fin. Quant à la méditation dite Dzogchen, ou qui met en jeu la vacuité, liée donc au Vajrayana. On a là une attitude qui va être une attitude, une pratique de radicalisation qui, d'une certaine manière, prend appui sur Vipassana. Donc, il n'est pas autre chose, qui n'est pas quelque chose de mystérieux, d'exotique ou d'ésotérique. Il s'agit plus d'une pratique graduelle à partir de laquelle, eh bien, à un moment donné, justement, la forme même de la méditation va se dissoudre. C'est-à-dire qu'on va. De même que les frontières entre moi et l'espace deviennent poreuses, de même dans la méditation Dzogchen, d'une certaine manière, la forme même de la méditation, c'est-à-dire le fait même de, à un moment donné, de m'asseoir sur un coussin, sur le coussin pour décider, voilà, maintenant c'est le moment, j'ai un format, j'ai un temps, j'ai une demi-heure ou plus, 1 heure, 2 heures, etc. Le cadre même, en fait, la forme même, la circonscription même du temps et de l'espace va devenir inutile, ou en tout cas va devenir moins essentielle. Et du coup, on ne sera plus dans un type de pratique où on va distinguer la méditation, la post-méditation ou de la pré-méditation, comme si on avait des phases différentes et qu'à un moment donné, j'étais en train de méditer, puis à un autre moment donné, bah, je n'y suis plus, je fais autre chose. Donc, du coup, l'attitude est plus radicale puisqu'elle est aussi liée à la prise de conscience, finalement, de l'inanité d'une forme méditative. Donc, c'est une pratique qui est assez radicale parce qu'en fait, elle remet en cause l'idée même de méditation, en tout cas dans son format standard. Elle peut être dangereuse à certains égards, c'est pour ça qu'en général, on la pratique et on la présente moins, ou en tout cas pas tout de suite. Parce qu'on considère que elle pourrait détourner certains ou certaines de pratiques de base et de pratiques nécessaires qui tiennent à des formes. Et on sait qu'on dans les apprentissages, en général, on a besoin de formes. Hein. Moi, je sais que mes étudiants à Rouen, je leur fais pratiquer des exercices très précis de méditation, de commentaires de textes et de dissertations. Ce sont des formes. Et c'est vrai qu'ensuite, je leur apprends aussi à se libérer de ces formes. Ben, d'une certaine façon. C'est un peu un processus analogue qu'on a avec cette méditation plus radicale, une pratique qui va d'une certaine manière dissoudre la forme et qui est donc présentée négativement quand on parle de vacuité comme une absence d'identité substantielle. On parle souvent de shunyata, de la vacuité comme une absence d'identité substantielle, mais ça se relie à la pratique justement d'une absence de méditation, de forme de méditation. Donc la méditation, c'est l'absence de forme. On prend conscience finalement que la forme n'est pas l'essentiel, ou en tout cas peut être mise de côté, relativisée. Positivement, il s'agit de faire émerger quelque chose qu'on pourrait nommer un champ d'apparition, un apparaître, qui est justement délesté de sa dimension substantielle, délesté d'un être, délesté d'un fond, qui serait encore finalement. Ce à partir de quoi, le support à partir duquel la manifestation prendrait sens. Donc un espace ouvert, quelque chose qui est une forme d'émergence sans état déterminé, ni avant ni après. Donc la façon dont moi je présente en fait cette méditation, vous voyez, je la présente vraiment dans le prolongement du Vipassana et pas comme quelque chose de complètement autre et qui serait encore une fois exotique et inaccessible, même si. Je pense qu'il est important d'avoir conscience que cette radicalisation, eh bien, elle peut être dangereuse si elle n'est pas, si elle est pas sans cesse réancrée finalement dans Samatha et Vipassana. D'où le fait qu'il me semble que ces pratiques, elles doivent vraiment circuler l'une par rapport à l'autre et être sans cesse réactivées dans un processus graduel et d'interaction. Alors puisque je ne parlerai plus de cette troisième forme de pratique maintenant, de sunyata, je me permets de renvoyer à un article de Francisco Varela qui s'intitule justement Pour une phénoménologie de la sunyata et qui est paru dans un collectif initialement en 2012, donc un colloque qui a eu lieu en 1997 à la Sorbonne, à Paris 4, et qui s'intitule, donc le collectif en question s'intitule, je vous le mets comme ça sur le, s'intitule La gnose. Une question philosophique pour une phénoménologie de l'invisible. Et vous trouvez l'article donc autour des pages 121 et suivantes, l'article de Francisco Varela. Donc, ce qu'on peut comprendre à partir de là, c'est que on voit comment ces pratiques sont dans une logique d'approfondissement graduel et aussi d'inter-empiètement des différentes phases, avec des allers-retours et aussi avec des moments de régression. Donc, l'idée d'une avancée cumulative ou de ce que certains mystiques appellent la voie du perfectionnement ou de la perfection, je pense qu'il faut s'en garder, enfin, il faut rester prudent. On est toujours finalement comment dire, dans une sorte d'équilibre instable où finalement le cadre le format de base, disons, d'une médiation Samatha est bienvenu pour se réancrer et pour pas avoir le sentiment de partir trop loin alors qu'en réalité on n'est pas si loin que ça. J'en viens maintenant à la phénoménologie, donc dans ce moment d'introduction encore, et je voudrais décrire plus précisément les trois actes que j'ai évoqués au tout début. Donc, premièrement, la conversion du regard. Ça correspond chez Husserl, dans les textes dont on dispose, à une pratique de redirection de mon attention, qui au départ est spontanément absorbée dans l'objet. Guy parlait de captivité ou de capture, hein, du fait d'être capté par. Ben, d'une certaine manière, c'est exactement le processus auquel on est confronté spontanément, dans ce que Husserl appelle l'attitude naturelle, une attitude donc non questionnante. Et la conversion du regard, eh bien, ça va être le moment de retournement, le moment où, à un moment donné, ça peut être suscité par quelque chose d'extérieur, quelque chose qui me surprend, ou ça peut être aussi une décision intérieure, ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'intérieur de moi-même sans que ce soit une décision. En tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent susciter ce retournement, qui va faire que je vais prendre conscience, à un moment donné, de cet état d'absorption. Par cette prise de conscience, eh bien, je vais me rediriger intérieurement vers le vécu lui-même, vers l'acte lui-même qui vise cet objet. Donc le mouvement est un mouvement d'observation où je vais finalement passer d'une attitude centrée sur l'objet à une attitude où je vais me recentrer sur moi-même à travers le vécu et l'acte. Donc c'est pas se recentrer sur moi-même en général, sur ma conscience en général, c'est vraiment me recentrer sur la manière dont je me suis reliée à cet objet. Donc là, on crée une désabsorption quand on fait cela. Ça peut être un effort, ça peut être quelque chose auquel que je m'efforce de faire. Mais ça peut aussi être quelque chose qui intervient spontanément, qui à un moment donné correspond à une prise de conscience. Alors ça renvoie chez Husserl un autre terme qui est le terme même d'intentionnalité, puisque, comme vous le savez peut-être, Husserl a rebaptisé la conscience intentionnalité, donc a considéré qu'en fait c'est ce mouvement de visée de l'objet qui doit être pris en considération et pas simplement la réflexivité ou l'intériorité, comme c'était le cas encore chez Descartes. Mais ce mouvement de visée de l'objet, eh bien, c'est justement le mouvement qui va aussi m'amener à me rendre compte que je suis en train de viser l'objet. Donc l'intentionnalité, c'est pas juste je regarde des choses à l'extérieur. Ça, ce serait une conception très très insuffisante et très trop naïve de l'intentionnalité. C'est pas simplement une ouverture des objets extérieurs. Ce qui est en jeu, c'est vraiment la manière dont je suis en relation avec ces objets qui double, qui se greffe au même moment avec la relation à l'objet. Donc je vais en fait vous renvoyer, comme je vois que le temps passe, je vais vous renvoyer simplement un extrait que je ne vais pas lire en réalité, mais qui décrit assez bien ce processus et qui se trouve dans un texte de Husserl absolument central et déterminant, qui est les idées directrices pour une philosophie et une phénoménologie pure, qui est parue en 1913. Et vous pouvez regarder notamment le paragraphe 37, autour des pages dans l'édition, dans la traduction de Paul Ricoeur, autour des pages 119-120, qui décrit justement très bien ce mouvement de retournement de l'objet à l'acte de visée. Hein? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est conversion du regard, ça veut dire retournement de l'objet, de ma relation à l'objet, à la relation que j'ai avec l'acte même de viser de l'objet. Ça, c'est pour le premier acte. Le deuxième acte, je le nomme aujourd'hui d'un terme qui est le terme de réceptivité. Il me semble que ce terme, il désigne très bien l'attitude d'ouverture qui caractérise cet acte. Donc, vous voyez que c'est un acte en un sens, comme je disais, beaucoup plus large, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi ciblé, aussi précis que pour la conversion du regard, puisqu'en fait, c'est plus une attitude, c'est plus une capacité, finalement, du sujet à une disponibilité au monde, une activité, une attitude et une activité d'accueil du champ même des phénomènes et de ce que Husserl appelle le champ, plus précisément, de prédonation passive des phénomènes. C'est une expression qu'on trouve, par exemple, dans un ouvrage plus tardif qui s'intitule « Expérience et jugement », qui a aussi été relié à des textes, des manuscrits de Husserl sur la synthèse passive, qui datent des années 20. Et par exemple, au paragraphe 16, on trouve bien ce processus qui est décrit. Donc, je vais juste vous lire le tout début. Donc, le texte s'intitule « Expérience et jugement ». Et au paragraphe 16, si vous regardez les pages 84-85, eh bien vous trouvez justement une description de cette ouverture au champ de prédonation passive, où Husserl nous dit donc que ce champ, eh bien, il est là. Il nous dit, page 85, prenons-le, ce champ, tel qu'il est, avant que l'activité du jeu ait encore effectué sur lui de quelconques opérations donatrices de sens. Donc ce champ, il est donné et il existe, il est là, disponible, avant même que, vous voyez, un jeu se mette à faire des choses, se mette à produire des actes. Donc d'une certaine manière, ce que nous dit Husserl, c'est que la réceptivité, ce deuxième type d'acte qui est plus une attitude, eh bien elle est là, elle est disponible et on y revient. En fait, on régresse, on fait une sorte de régression ou de retour, de généalogie à quelque chose de plus primitif, de plus premier. Que ce que l'acte que je pose, que les opérations que je fais, et donc que le mouvement même de l'intentionnalité que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est une sorte de mouvement généalogique ou un mouvement de retour. On revient à quelque chose de plus premier, qui est donné. Et enfin, troisième acte ou troisième attitude, eh bien c'est l'épopée elle-même. Donc, qui est ce mouvement de suspension des préconceptions, et qui est un mouvement radical, donc encore plus radical, encore plus primaire d'une certaine façon, puisqu'il m'amène à un processus où je vais être capable d'apercevoir les catégories que j'utilise et de les déconstruire ou de les désidentifier, de façon à observer le processus lui-même qui est en jeu dans les phénomènes. C'est-à-dire que je vais me désencombrer finalement des catégories dans lesquelles je suis toujours en train de penser, quoi que je fasse, pour justement créer une désidentification et laisser finalement les phénomènes apparaître tels qu'ils sont. Alors on a une très belle description de ce processus dans un autre texte de Husserl qui s'intitule Philosophie première, qui est qui correspond à des leçons que Husserl a prononcé en 1923-1924. Et par exemple, si on regarde quelques passages de la 50e leçon, eh bien, on voit apparaître justement cette ouverture, cette expansion, cette amplification que propose Husserl, en nous disant donc qu'il s'agit non seulement d'avoir en tête un certain nombre d'actes, comme il dit, je puis me tourner vers les actes précédents et faire porter sur eux un certain nombre d'expériences réflexives, mais certaines réflexions peuvent aussi concerner des périodes entières de ma vie. Par exemple, je récapitule ma journée d'hier ou mes belles années d'étudiant, je porte mon regard en avant sur les vacances de Pâques à venir ou sur leur déroulement possible. Je puis aussi faire une récapitulation universelle de l'ensemble de ma vie et prendre des résolutions qui engageront toute ma vie. Donc il y a une sorte d'ouverture dans cette, ce que Husserl appelle une épopée universelle, à la page 215. Donc une épopée qui porte finalement sur l'ensemble de mon parcours de vie. Donc il y a une dimension qu'on pourrait nommer existentielle. Hein, ce n'est pas le terme que Husserl utilise, mais au fond, vous voyez, on est passé d'un acte singulier à un champ d'expérience passive, puis à une récapitulation de ma vie. Donc on est en train de à mesure d'ouvrir l'horizon, hein, du flux finalement de ce qui est l'ensemble de ma vie à travers ce troisième acte et cette épopée. Donc vous voyez, le terme d'épopée, il ne faut pas du tout le prendre en un sens seulement technique et de méthode, mais vraiment y voir davantage l'ouverture de ma vie dans son entier. Alors, pour conclure ce premier temps, vous voyez qu'en fait, j'ai adopté une démarche, une approche où j'ai mis en relation, finalement, les deux champs, hein, que sont donc le bouddhisme et la phénoménologie. Donc, d'une certaine manière, je les ai, dans mon approche successive, je les ai posés l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre. Le but de ce premier temps, c'était d'éveiller une première intuition d'un lien, de faire émerger en vous, peut-être, j'espère, des proximités, des convergences. Donc c'est une sorte de première approche préliminaire qui permet de créer le terrain de la relation, si vous voulez. Mais évidemment, cette première approche, elle reste préliminaire, elle reste préparatoire, et en fait, elle repose sur une approche qui est une approche de comparaison externe, on pourrait dire. Elle est nécessaire, mais elle est évidemment pas suffisante. Cette approche, c'est l'approche que nous avons adoptée dans le livre que j'évoquais au tout début, donc que j'ai coécrit avec Francisco Varela et Pierre Vermersch, donc ce livre qui s'intitule en français « À l'épreuve de l'expérience pour une pratique phénoménologique », c'est cette méthode de comparaison externe que nous avons adoptée, notamment, et je vous renvoie à ce chapitre parce que je ne peux pas le reparcourir de manière précise là à l'instant, qui se trouve dans la deuxième section, c'est le chapitre 7, donc vers la fin de l'ouvrage, qui s'intitule justement « Les trois yanas et les trois voies de la réduction ». Donc c'est tout un programme, évidemment, donc qui s'attache à essayer de faire émerger des convergences entre ces deux champs, mais aussi à montrer certaines limites de ce que nous nommons une homologie. Donc, vous voyez, le terme même d'homologie, il est intéressant parce qu'il fait ressortir qu'on a une résonance entre deux logoi, hein, entre deux discours. Homo, donc on pourrait dire, bah oui, c'est similaire, mais en fait c'est seulement similaire, c'est pas identique, et on ne peut que montrer des convergences. Donc évidemment, on sait très bien que la méthode comparative, elle est à la fois utile, et encore une fois, elle ne permet pas, enfin c'est un premier stade, on pourrait dire. D'où le passage à un deuxième temps, à présent, où je voudrais vous proposer, je vais le faire de façon synthétique, parce que je vois le temps qui passe, comment nous avons essayé de construire à partir de là un modèle plus intégré, plus unifié, qui permette de ressaisir ensemble ces différentes pratiques bouddhistes, notamment, et les chemins de la réduction. Donc ce modèle, il se trouve en réalité dans le même ouvrage que j'ai déjà mentionné, donc « À l'épreuve de l'expérience », mais il se trouve dans la première section. Ce livre est construit... il est construit à rebours de la découverte que nous avons faite, il est construit à rebours de l'heuristique du travail, puisqu'en fait, dans un premier temps, nous avons disposé de beaucoup de champs, de terrains d'expérience. Donc en dehors même du bouddhisme, nous avons fait appel justement à l'entretien d'explicitation, donc à cette technique psychologique, mais aussi à la psychanalyse, mais aussi à la pratique de la prière du cœur, donc à toutes sortes de pratiques. Et c'est à partir de la mise en relation de ces différentes pratiques que nous avons essayé de monter un modèle, donc comme une sorte de plateforme pétrolière, si vous voulez, hein, à partir du matériau, faire émerger un socle, faire émerger un support. Et en fait, ce support, nous avons décidé de le présenter en premier, donc c'est pour cela qu'il est dans la première section. Et ensuite, de redistribuer les cartes dans la deuxième section, donc de faire ressortir les différents terrains depuis lesquels ce modèle a émergé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Donc, il est très simple, en fait. Il se trouve dans l'ouvrage à la page 73. Alors je t'ai envoyé, Guy, un document qui est en fait la recension de ce livre où figure le petit schéma sur lequel je voudrais maintenant prendre appui et que éventuellement je ne sais pas s'il peut être mis enfin placé sur écran pour le confort de l'écoute de chacun. Mais bon, si c'est pas possible, c'est pas très grave. En fait, je vais peut-être juste le montrer comme ça à travers mon livre. Parce que j'ai pas la commande, moi, je peux pas mettre moi-même quelque chose sur l'écran. Mais si c'est pas possible, c'est pas très grave. Donc ce modèle, en fait, il tient, vous le voyez ici, il tient en trois ovales qui sont nommés selon trois verbes qui sont suspendre, rediriger et accueillir. Suspendre, rediriger, accueillir. Donc on l'a présenté sous la forme de ces trois ovales pour montrer le caractère circulaire au sens d'une circulation vertueuse de ces trois gestes. Donc qui sont trois activités, trois processus, hein, d'où le fait qu'ils sont nommés en termes de verbes et pas en termes de noms, et qui désignent justement finalement la dynamique même de la prise de conscience. Donc l'idée c'est de penser ces trois ovales et ces trois cercles comme des gestes internes qui coexistent dans mon expérience, mais que évidemment dans le cadre d'une présentation je vais être amenée à reprendre de façon un peu plus linéaire, un peu plus analytique évidemment. Mais ce qui est important c'est d'avoir conscience qu'on a vraiment affaire à trois types d'activités et de gestes qui ne cessent de coexister et de comment dire, de se reprendre l'un l'autre et de s'alimenter l'un l'autre. Donc ces trois gestes qui sont donc à la fois des actions et des attitudes, vous voyez qu'en fait on peut considérer qu'il c'est une façon, on les a nommés ainsi, de façon à essayer d'intégrer précisément les deux composantes ici pour nous issues des pratiques bouddhistes et des actes usuriens. Donc rediriger, je commence par le premier, rediriger, vous voyez, ça désigne eh bien justement ce mouvement par lequel je vais faire émerger le vécu qui est mien au moment où je me relie à un objet, donc le passage de l'objet à l'acte. Ça, c'est le geste usurien. Et dans le cadre de la méditation Samatha, le moment où l'observation, la prise de conscience d'une pensée qui est là en moi et dont je n'avais pas conscience, eh bien, cette prise de conscience émerge. Donc il y a un moment d'identification. De même qu'il y a un moment d'identification du vécu qui est contenu dans le mouvement qui va me porter vers un objet. Donc on a une structure qu'on peut mettre en relation ici. Concernant le geste, donc accueillir, eh bien, il renomme d'une autre façon, de façon unifiée, le mouvement donc d'ouverture du champ de la réceptivité, donc situé en deçà de l'ego, la prise de conscience que je fais de disposer finalement d'un champ d'apparaître qui m'est donné avant même que je produisent des actes ou des opérations à l'intérieur de ce champ. Donc le moment de cette prise de conscience où je régresse et je reviens et je découvre en fait sous moi et en moi ce champ. Et puis le mouvement dans la méditation Vipassana où je prends conscience que finalement je suis de l'espace et l'espace n'est pas simplement autour de moi. Donc c'est une manière de nommer ces deux mouvements à travers cette notion de réceptivité qu'on nomme ici donc accueillir. Et puis enfin troisième geste attentionnel, donc c'est le geste même de suspendre qui correspond donc chez Husserl à justement la mise entre parenthèses des préconceptions, donc la prise de conscience de l'existence d'identité et de catégories qui guident ma manière de penser, mais qui sont en fait autant de cristallisations qui restent abstraites et qui demandent à être dissoutes d'une certaine façon dans le flux même des phénomènes. Et puis, dans le cadre de la méditation liée aux pratiques Dzogchen, l'idée même de déconstruire la forme même de la méditation, donc de prendre conscience de la, du caractère relatif finalement de la forme elle-même. Donc à travers ces trois gestes attentionnels, vous voyez, l'idée ça a été de construire ce modèle unifié qui permet de ressaisir finalement à distance des territoires, à distance du territoire husserlien phénoménologique d'une part, à distance du territoire bouddhiste ancré dans son cadre propre, de ressaisir, donc d'obtenir un modèle qui puisse avoir une forme d'universalité, ou en tout cas qui puisse avoir un caractère au moins transversal au terrain, et en même temps qui puisse aussi se transposer à d'autres terrains. Peut-être vous-même avez-vous en tête en ce moment même d'autres pratiques justement qui répondent, qui peuvent répondre à ces gestes attentionnels et qui ne sont pas tributaires d'un territoire particulier. En tout cas, qui sont tributaires de votre propre territoire et plus de celui d'où nous sommes partis. Donc c'est la vertu évidemment d'un modèle que d'être capable de parler à tous, hein, de parler à toutes, d'avoir une forme d'universalité et en même temps d'être réancrable à chaque instant dans une pratique donnée. Mais c'est vrai que l'inconvénient, en tout cas le risque ou la limite de ce type de modélisation, eh bien, c'est que d'une certaine façon, on fournit une structure d'expérience, mais on perd en partie la situation singulière de l'ancrage, propre à chaque approche. Et évidemment, c'est aussi le risque, d'une autre façon, de la phénoménologie elle-même, de la philosophie en général, qui très souvent se situe au niveau de la possibilité de l'expérience, donc qui, vous l'avez entendu à travers peut-être certaines phrases que j'ai citées de Husserl, quand il nous dit que je vais reprendre le passage, si je le retrouve. Je puis aussi faire une récapitulation universelle de l'ensemble de ma vie. Je puis exercer une critique universelle. Donc je suis dans le registre avec Husserl, je suis dans le registre de la possibilité. Un certain nombre de possibilités me sont données et je peux décrire beaucoup de choses. Mais en fait, je suis sur un plan qui est un plan de structure d'expérience, un plan encore très général finalement, et j'ai perdu une partie de l'ancrage avec l'expérience singulière, hic et nunc, qui correspond à une pratique donnée, à un acte donné. Du coup, il me semble que si on revient maintenant à un type de méthode ou d'approche où justement on va maintenir la singularité de chaque approche, eh bien, on va être capable de, en tout cas, de prendre moins de risques, de perdre l'ancrage d'où on est parti, pour entrer dans une modélisation qui pourrait, à terme, tourner un peu à vide, ou en tout cas être un peu en roue libre, un peu hors sol, par rapport à la nécessité d'une incarnation et d'un ancrage. Donc, c'est le but de ce que je voudrais maintenant vous proposer dans un dernier temps, à travers donc une troisième façon de rentrer en relation. Avec donc le bouddhisme et la phénoménologie, en maintenant justement la singularité de chaque approche. Et cette méthode, cette troisième façon de procéder, eh bien, je la nomme co-générative, en prenant appui sur l'expression qui a été utilisée initialement par Francisco Varela pour décrire justement la mise en relation de deux champs. Alors, dans son cadre, il s'agissait du champ scientifique et du champ philosophique, mais de mettre en relation donc ces deux approches, ces deux champs, sans jamais chercher à les unifier, mais en respectant leur singularité et en prenant appui sur cette singularité pour précisément, d'une certaine manière, les féconder l'un l'autre et produire quelque chose de nouveau sur la base de ce respect mutuel. Ne pas oblitérer l'ancrage, mais le maintenir et créer un enrichissement en maintenant la relation au terrain. Alors je vais me centrer pour ce faire plus particulièrement maintenant sur la méditation vipassana et sur l'attitude de réceptivité chez Husserl pour vous proposer une description un peu plus fine peut-être de l'un et de l'autre, mais bon, qui restera préliminaire. Comme je disais tout à l'heure au début de cette présentation, ce serait l'enjeu d'un article à part entière ou d'un livre peut-être à part entière pour vraiment décrire plus finement cette relation et ce lien. Et en fait, je vous renvoie en fait pour plus de détails sur Je vous renvoie à un article que j'ai publié récemment dans un volume du Journal of Consciousness Studies en 2019, que je vous indique ici à l'écran aussi, et qui porte sur ce que Shugam Trungpa a nommé, j'évoquais cela tout à l'heure, les cinq étapes de la méditation Samatha. Donc en différenciant, en montrant qu'en fait Samatha c'est pas juste une méditation simple comme je l'ai évoqué, c'était bien sûr beaucoup trop rapide, mais c'est une méditation qui est elle-même très articulée, qui passe par toutes sortes de microphases, et qui débouche ultimement, justement, qui a une articulation tout à fait graduelle avec Vipassana. Donc j'ai mentionné à la fin de cet article, notamment aux pages 63-67, donc vers la fin de l'article, une première, justement, manière de penser le lien, l'approfondissement graduel de Samatha à Vipassana, en prenant appui sur la façon dont Shugam Trungpa lui-même décrit cette relation et cette gradualité. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est dans la démarche, donc essayer d'avoir une sorte de démarche un peu plus transversale entre les deux champs, les deux approches, en les croisant de façon plus interne, mais en gardant leur singularité. Et je voudrais le faire en procédant en trois petits temps rapides, qui sont des temps transversaux, et que j'ai nommés ainsi pour essayer de maintenir la distinction et en même temps penser la relation. Donc qui caractérise dans chacun des cas donc à la fois Vipassana et la réceptivité. Donc une première étape, une première phase caractéristique de ces deux champs, eh bien c'est de tenir, ça tient en un mouvement d'ouverture de l'espace et d'émergence du champ de l'expérience. Donc on a quelque chose de très dynamique et de très de très ample, ouverture de l'espace et émergence du champ de l'expérience. Donc là, je reprends des termes des deux approches, mais en même temps j'essaye de les qualifier. Un deuxième moment, c'est le moment, je dirais, la phase d'un effacement du soi et d'une désolidification des frontières dedans-dehors. Donc c'est une deuxième phase, parce qu'en réalité, elle suppose qu'il y ait d'abord eu une ouverture de l'espace et une forme d'émergence d'un champ d'expérience plus large que l'ego. Et enfin, troisième moment, on pourrait dire, c'est le mouvement par lequel je vais être dans une relation d'ouverture à autrui, et où je vais finalement prendre conscience que, en réalité, ma consistance mienne, personnelle, mon identité, eh bien, elle est tout entière reliée à ma façon de faire émerger en moi-même la présence d'autrui. Donc, le moi se désidentifie, mais il ne se dissout pas pour autant, complètement, puisque autrui est quelque chose qui devient présent à moi-même. Bon, c'est vraiment une façon préliminaire encore pour moi d'essayer de caractériser des phases différentes. Et encore une fois, ces différentes phases, elles ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qu'elles coexistent en réalité. Mais les distinguer, ça permet aussi de porter l'accent plus précisément sur un point ou sur l'autre. Et donc ainsi, ouverture de l'espace, effacement du soi, ouverture à l'autre, eh bien, participe d'un même mouvement de présence où je prends conscience finalement de la non-solidité de ce que je suis, de la non-identité de ce que je suis. Alors, je vais reprendre ces trois temps à nouveau en faisant donc ressortir donc à travers deux étapes, de façon plus concrète à travers les pratiques. Les pratiques bouddhistes, comment ça peut se jouer. C'est évidemment une indication, et il y aurait peut-être d'autres aspects à développer, mais ça peut se manifester par exemple sous la forme de l'exploration plus fine de l'émergence même d'une pensée, c'est-à-dire une attention portée sur le processus même d'avènement de la pensée en question. Dans Samatha, ce qu'on arrive à faire souvent, plutôt, c'est de prendre conscience à un moment donné que on a pensé à quelque chose. Mais finalement, cette prise de conscience intervient dans l'immédiat après-coup de la pensée qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà manifestée à moi et dont je prends conscience par après. Donc je suis toujours dans une temporalité où je vais, dans une temporalité de l'après-coup, où je vais rattraper finalement, ma prise de conscience est rétrospective, et je rattrape cette pensée qui était là et que j'identifie par après. Et ça, c'est le processus classique de la méditation samatha, qui repose justement sur ce retard de la conscience sur le phénomène. Dans une méditation vipassana, l'exercice peut nous permettre à un moment donné de devenir attentif ou sensible au moment même où la pensée émerge. Donc d'entrer dans une temporalité qui ne sera plus simplement rétrospective, et encore assez grossière, mais finalement plus proche de l'avènement lui-même, plus proche du moment même d'émergence, donc avec une observation plus fine, qui est finalement synchronique, quasi synchronique, peut-être pas entièrement synchronique, mais en tout cas quasi synchronique du moment d'apparition de la pensée. Donc là, vous voyez par exemple cet exemple, il montre qu'en réalité, on parle de vision pénétrante, hein. Encore une fois, je reviens sur ce terme parce qu'à la fois je le trouve utile, mais parfois un peu large, un peu abstrait. En fait, il décrit un peu ce processus par lequel je vais être capable d'affiner ma relation à moi-même pour être présente au moment même où la pensée apparaît. Et je vais peut-être à un moment donné me rendre compte que, ah, ça y est, quelque chose est en train d'arriver. Et j'en prends conscience au même moment. Donc vous voyez, on est très proche de Samatha, mais en fait, on est déjà passé sur un autre plan plus fin qui correspond davantage à Vipassana. Deuxième exemple, toujours plus ancré, dans le moment même d'une pratique, qui concerne cette fois la relation à autrui. Donc là, je vais juste évoquer un autre type de pratique qu'on appelle en tibétain Tonglen, T-O-N-G-L-E-N, qui est une pratique donc de compassion, donc qui appartient de fait au Yana, au Mahayana, donc de fait à ce temps plus amplifié justement de relation à autrui, et de mise en retrait de moi-même, de mise en retrait du soi. Donc j'ai déjà évoqué le fait que dans une méditation vipassana, autrui n'est plus face à moi, n'est plus à l'extérieur de moi, n'est plus autre que moi, mais d'une certaine façon, je m'ouvre à la présence d'autrui. Jusqu'à un moment donné, être capable de faire émerger en moi-même la présence d'autrui. Alors, on en a des expériences très courantes quand on pense à quelqu'un. La présence d'autrui, c'est la pensée que je peux avoir de quelqu'un, la projection que je peux faire de quelqu'un que je vais voir bientôt, ou le souvenir que je peux avoir de quelqu'un que j'ai vu il y a peu de temps, ou même de quelqu'un qui est mort. Donc une présence qui a une consistance évidemment plus faible que la perception, mais qui malgré tout correspond, exprime en fait le fait que le je, ce que je suis, l'ego, est traversé par autre chose que moi-même, en l'occurrence par des présences autres. Dans la pratique qui correspond finalement à cette... dans la pratique tonglen, cette relation à autrui va se mettre en place là aussi au rythme de la respiration. Et en fait, ce qui est proposé à la méditation, c'est le fait d'adopter un mouvement d'expiration et d'inspiration calé sur la relation à autrui, c'est-à-dire calé sur la possibilité, sur le fait d'avoir autrui présent en moi-même et de lui donner des émotions positives au moment où j'expire, et de prendre en moi-même au moment où j'inspire, donc au moment où ma respiration me ramène à moi-même, de prendre en moi-même des émotions négatives, donc ça peut être la tristesse, la douleur, la souffrance. Les émotions positives, ça peut être la joie, la bienveillance, l'allégresse, la tendresse, etc. Donc, une pratique qui en fait m'amène à me mettre en relation avec autrui au plus près finalement des émotions qui sont les miennes, mais ma capacité à donner et à prendre. Et vous voyez qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on parlera de compassion? Parce que justement, je vais être dans un don d'émotions, alors qu'ils sont des pensées, hein, mais que j'envoie d'une certaine façon à autrui, et je prends sur moi des dimensions négatives qui l'habitent, que je sais l'habiter. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une personne en particulier en tête à ce moment-là, de façon à être capable justement de situer son propos, d'être ancré, et pas simplement de faire ça en général. Donc c'est une pratique très concrète, et si on avait plus de temps, évidemment, on pourrait, à travers un entretien d'explicitation, donc à travers une pratique micro-phénoménologique, on pourrait faire justement revenir sur cette pratique à l'aide d'une expérience en première personne. Je pourrais vous inviter à respirer pendant quelques minutes en étant attentif justement à ce mouvement d'expiration et d'inspiration et en vous attachant, par exemple, au moment où vous expirez, à envoyer une pensée, une émotion joyeuse à une personne en particulier à laquelle vous voulez faire du bien et à prendre une émotion négative, de la tristesse, de la douleur, de la dépression, que vous savez caractériser une personne qui va mal, de façon à justement, par soi-même, en fait, être capable de l'aider par ce mouvement. Alors ici, il me semble qu'à travers cette pratique, on a un bel exemple, là aussi, non pas d'un effacement total ou d'une dissolution, mais d'une porosité des barrières intérieures-extérieures. Elles existent toujours, bien sûr, il y a toujours moi et autrui. Je ne suis pas dans une fusion avec autrui. Il n'y a pas d'unification. Je ne peux pas être là où est autrui. Mais ces frontières, ces barrières sont plus souples, sont plus labiles, puisqu'elles me permettent même de justement d'accueillir en moi-même les émotions d'autrui. Et en ce sens, on voit bien que on est bien dans une ouverture de l'espace qui n'est plus une réalité extérieure, qui n'est plus autre que moi, mais qui d'une certaine manière devient comme une sorte d'ouverture interne à moi-même. Dans certains textes mystiques, on parle du moi comme un centre ouvert. Je pense par exemple au texte des torrents, je ne vais pas retrouver son nom là tout de suite, d'une moniale du 19e siècle, mais vous allez m'aider. Et donc cette idée d'un centre ouvert, eh bien ça me semble bien caractériser justement cette capacité où le moi n'est pas totalement dissous. Mais en tout cas, c'est considérablement est devenu considérablement beaucoup plus labile et beaucoup plus ouvert. On fait tomber les barrières et on crée une sorte de zone ouverte de circulation où finalement, peut-être que l'ego devient une sorte de micro-monde à part entière, ou en tout cas où le monde est tout entier ouvert en moi-même. Juste pour terminer sur Husserl, pour finir sur la note phénoménologique, il y a un certain nombre de passages dans le dernier grand texte de Husserl, dans La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, un texte des années 30, tardif, où Husserl ne va pas jusqu'à décrire cela de manière aussi précise que ce que je viens de faire à travers cette pratique d'Englène, mais en tout cas, il adopte un regard à travers ce qu'il nomme le monde de la vie, la Lebenswelt, qui est justement un regard où je vais me, comment dire, l'ego va se réancrer dans un monde qui lui est donné. Il ne se dissout pas dans le monde, hein, il ne va pas disparaître dans le monde, mais finalement, il se ressource à ce monde jusqu'à précisément être capable en tout cas de faire sauter les barrières qui sont donc l'opposition habituelle que l'on connaît entre intérieur et extérieur. Donc il y a une sorte de mouvement, on pourrait dire, de retrouvailles avec le monde où l'ego se réinscrit, hein, donc n'est pas, encore une fois, complètement perdu de vue. Il me semble que dans Vipassana, on a ce moment intermédiaire qui n'est pas un moment de dissolution, mais qui est un moment de d'ouverture et de dimension beaucoup plus labile des relations intérieures-extérieures. Voilà, je vais m'arrêter là et j'ai conscience d'avoir été un peu longue, mais je vous remercie de votre attention. Et voilà, j'espère qu'on aura des occasions d'échange. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à discuter et à préciser. Merci encore.
Merci beaucoup Nathalie, non, tu es parfaite, bien dans les temps, exactement, pile poil. Merci beaucoup, sujet tout à fait passionnant. Effectivement, j'invite tout le monde à lire l'article dont je viens de mettre la référence sur le chat. On pourra en discuter encore tout à l'heure à la table ronde. Je n'ai pas identifié de questions à poser là tout de suite maintenant dans l'urgence. Donc, je propose à Blandine Trévaux-Charles, de prendre la parole pour nous présenter la société suisse d'Hypnopraxie.